André Manoukian, bonjour.
Bonjour.
Sur les routes de la musique chez HarperCollins, c'est votre livre qui est à la fois un livre sur la philosophie de la musique, finalement. On peut dire ça ou pas?
Ah, on peut dire ça, mais il y a... Alors, bizarrement, c'est aussi un livre qui nous apprend que les philosophes n'aiment pas la musique et qu'un certain Platon, par exemple, voulait virer de la cité les musiciens et les poètes parce qu'il trouvait que la musique ramollissait les hommes. Et finalement, l'explication est assez rationnelle parce que la musique ne s'adresse pas à la tête, mais ni donc pas à la raison. Elle s'adresse directement, elle nous provoque directement des sentiments. Elle crée des transformations physiques dans notre corps. On peut se mettre à transpirer, à avoir la chair de poule. Moi, perso, c'est transpiration de la moustache illico dès qu'il y a une jolie voix qui chante. Donc, voilà, c'est... Et je dirais que c'est une forme d'anthropologie musicale, puisque je vais loin aussi et que je relis les comportements des hommes qui sont tous, grosso modo, quelles que soient les époques et quels que soient les territoires, les mêmes par rapport à la musique.
Alors, justement, c'est en... 40 anecdotes, en tout cas, chapitres, où vous expliquez un peu tous les thèmes, hein, le jazz, la musique classique, plein de choses intéressantes. Alors c'est vrai qu'on connaît les notes, pour ceux-mêmes qui n'ont pas fait de la musique, ils savent une gamme succès, plus ou moins. Hein. Et vous dites que les notes, si je peux reprendre comme ce que vous dites, les notes sont amoureuses ou ont quelque chose dans le genre, je ne sais plus très bien comment vous le dites, mais c'est très joli en fait.
En fait, un compositeur, c'est quelqu'un qui entend ce que réclame une note. Y a le si, il dit « moi je vais aller sur le do il dit « je vais aller sur le ré il dit « je vais aller sur le mi ». D'une certaine manière, à cause de la structure de notre gamme qui comporte à l'intérieur deux demi-tons qui se baladent, entre do et ré, un ton, ré, mi, un ton, mi et fa, un demi-ton. Fa et sol, un ton, sol, la, un ton, la et si, un ton, si et do, un demi-ton. C'est ces deux déséquilibres-là qui créent le mouvement finalement. Et c'est un déséquilibre qui va se rattraper au dernier moment ou pas. Et du coup, c'est avec ça qu'on va raconter toutes les que nos musiques vont avoir un pouvoir narratif. Un déséquilibre, au fond, ça fait quoi? Ça fait quelque chose qui tombe, donc ça crée le mouvement. Maintenant, si vous avez, par exemple, une gamme pentatonique, c'est plus compliqué de raconter des histoires parce qu'on est dans quelque chose d'immuable. Et comme par hasard, c'est la langue, c'est la gamme qui sévit, enfin, qui joue en Extrême-Orient, où on a envie d'arrêter le temps. On n'aime pas le temps trop linéaire là-bas. On aime bien le temps circulaire.
Alors justement, j'ai envie de vous demander à quel moment la musique est entrée dans votre vie, à quel moment vous avez commencé à lire les notes.
Bah, tout petit, j'ai commencé l'apprentissage du piano, j'avais 6 ans. Et j'ai eu la chance d'avoir un prof un peu spécial qui ne m'a pas fait toucher mon clavier pendant la première demi-heure du cours. Et il nous a fait monter les mains au niveau de nos visages et poser nos avant-bras sur nos genoux en disant « ouf ». Respirer, lever les mains à nouveau et reposer « ouf ». Et au fond, il nous apprenait la respiration, mais ça, j'ai compris 20 ans plus tard que c'était pas une escroquerie, ce premier cours. C'était simplement pour nous dire qu'un pianiste aussi, ça doit jouer avec le souffle et la respiration.
Alors, j'ai envie de vous demander, quel compositeur de film, hein, parce que j'aime beaucoup la musique de film, hein, vous savez, quand on va au cinéma, bien souvent, les gens regardent le film et ils n'écoutent pas toujours la musique, alors qu'il y a de très, très belles musiques de films, de très, très grands compositeurs. Quel est votre compositeur de musique, celui qui vous a ému et transporté?
Moi, c'est Nino Rota, le compositeur de Fellini, notamment avec une espèce de musique de fanfare dans 8 et demi. Il y a quelque chose de très nostalgique et en même temps, il y a quelque chose de joyeux. La gaieté se mêle à la tristesse. Il y a une mélancolie heureuse et puis il y a une humanité qui est formidable. Et je pense que c'est vraiment... Il y a des dissonances parfois, il y a de l'humour. Il y a eu des grands couples, réalisateurs, musiciens. Celui-ci fait partie de mes préférés. Évidemment, après, il y a Sergio Leone et Ennio Morricone. Morricone a réinventé la musique des grands espaces, du western et tout ça. Mais Nino Rota, il y a ce côté qui vous prend au cœur, quoi. La musique d'Amarcord, enfin, toutes les. Et puis aussi, c'est parce que j'ai un amour terrible pour les films de Fellini, oui. Mmh.
Alors, dans la gamme, hein, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, laquelle note vous correspond le mieux, le plus?
Est-ce que je vous dis la note sensible, le Si, qui est un petit peu instable et qui a envie de se frotter sur le Do? Ou est-ce que je vous dis le Do, qui donne le ton, qui est tranquille, qui est peinard et qui attend que les autres notes viennent à lui?
Je sais pas, moi, je dirais le Do, allez. Pour ne pas se compliquer la vie.
C'est-à-dire que c'est, ouais, c'est le Do qui donne le, c'est le Do qui donne le La, donc qui donne le ton, et c'est le Do qui attire toutes les autres notes comme des aimants. Il y a des forces, il y a des lignes de force à l'intérieur d'une gamme, et finalement le travail d'un musicien, c'est de jouer avec ça.
La plus belle voix d'opéra pour vous aujourd'hui, ou même peut-être dans le passé, hein.
D'opéra, donc lyrique, c'est sûr que la Callas, elle me fait encore un truc, on la reconnaît entre des milliers, sa voix n'est pas parfaite, loin de là, elle était même réputée pour faire des faussetés et tout, mais il y a quelque chose qui dépasse le simple cadre de la musique classique, qui est très, quand même, voilà, très régentée. Elle avait comme une émotion qui venait d'ailleurs, elle rajoutait une sorte d'humanité, de faille à ces chants qui ailleurs sont formidables et pur cristal, quoi. Elle, il y a quelque chose d'une femme grecque en train de se plaindre un peu.
Si vous étiez une femme, on va rester dans la bien-pensante, la chanteuse que vous auriez aimé être ou devenir?
Mélodie Gardot, mais alors, sans hésiter une seule seconde, la murmureuse, la crooneuse, l'envoûteuse par excellence.
Ouais, c'est vrai qu'elle a une voix terrible. J'aurais dit, moi, je sais pas, j'aurais pensé que vous alliez dire, je ne sais plus, elle s'appelle Diane. Oh, vous devez la connaître, c'est une chanteuse de jazz très, très, très connue. Ça va me revenir. Alors, dans ce livre, il y a...
Diana Krall.
Voilà, tout à fait.
Ouais.
Elle a une voix extraordinaire.
Bah oui, 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 oui. Mais elles sont dans la même famille avec Gardot. Ouais.
Alors, il y a un mot un peu barbare dans le livre. Hein. Alors, je vais le retrouver. C'est ici. Un mot grec, non? Je ne sais plus. C'est très... C'est très brouillon, cette interview. On recoupera. Hein. Mais... Ah, voilà. Alors, les Grecs appellent ça l'ataraxie.
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
Ah, c'est la quête du
bonheur. Enfin, moi, je le sais, je l'ai lu.
La quête du bonheur. Enfin, pas du bonheur, mais finalement, supprimer tous les sentiments pour être sans désir. C'est... ne plus avoir de désir, c'est le désir et la passion qui rendent les hommes malheureux, puisqu'une passion, par définition, on ne peut jamais l'assouvir. Donc, cette quête permanente ne mène qu'au malheur. Donc, l'idée d'une certaine frange d'un mouvement un peu philosophique comme ça, c'était de dire, ben, on va se protéger de la douleur en évitant d'avoir du désir. Imaginez quelqu'un qui dit, ben, d'une certaine manière, je suis débarrassé d'une forme de fléau, mais en même temps, c'est le désir qui nous fait bouger. Donc,
Ça vous arrive parfois?
Alors, sachant que j'arrive difficilement à répondre à plusieurs désirs en même temps, on va dire qu'en choisissant le désir de la musique, vous vous enlevez pas mal de problèmes annexes. Parce qu'il y a un tel boulot. Je sais que parfois, quand j'arrive à faire ce que je veux avec mon piano, mais c'est rare, hein, ça demande beaucoup de travail, beaucoup lui tourner autour, ou quand j'arrive au bout d'un morceau et que j'arrive à peu près à ce que je voulais, j'éprouve une sorte d'ataraxie qui va durer 5 secondes au moins. Et puis après, ça recommence.
Alors, quelle est la musique, pour vous, la musique de la nuit, c'est quoi exactement? Parce que tout le monde dit c'est le jazz en général, mais ça peut être tout autre chose.
Ça, c'est assez proche de la philosophie indienne, finalement. Avec eux, ils appellent ça les ragas. Un raga, ouais, c'est à la fois un morceau, mais ils disent finalement, on ne peut pas jouer la même chose le matin. à midi, l'après-midi et le soir, et la nuit encore moins, parce que ça correspond à des moments énergétiques qui sont différents. Le matin, c'est le soleil qui se lève, vous êtes dans une énergie, votre corps est en état de... Il a envie de tout bouffer, et puis ensuite, on a d'autres moments. Et les Indiens étaient vachement forts parce qu'ils savaient finalement moduler par rapport à ces moments leur musique. C'est ce qu'on fait un petit peu. Une radio populaire, le matin, elle va plutôt passer des trucs un peu gays pour réveiller les gens. Et puis, comme vous dites, la nuit, un peu plus bluesy, un peu plus calme. On est plus seul avec sa radio, donc on est plus seul avec sa musique. Donc on peut se lancer dans quelque chose de plus introspectif, de plus méditatif. Pour moi, une musique parfaite de la nuit, ça serait quoi ? Ça serait le chant des grillons, ouais.
Votre compositeur préféré, en tout cas celui, votre référent, celui qui vous a porté pendant peut-être vos études.
Ah, c'est Beethoven, parce qu'il est à cheval entre deux trucs, il est à la fois dans le classicisme, mais en même temps il commence à parler de lui. Et puis il y a un tel contraste entre ses... Dans une seule de ses œuvres, vous passez dans tous les états. Tout d'un coup, il y a des accords diminués qui sont d'une sombre, et puis tout d'un coup, au bout de ça, vous avez un accord complètement ouvert. Et là, vous embrassez la sérénité du monde. C'est un ascenseur émotionnel. Dans un seul truc, c'est une vraie machine à laver sur les orages. Il vous fait parcourir plein de trucs. Quand j'étais petit, j'adorais écouter la pastorale parce que j'entendais les saisons qui changeaient.
Si vous aviez un piano, là, tout de suite, qu'est-ce que vous pourriez jouer ?
Ah, je chercherais des notes en vous regardant. Et je me dirais, tiens, elle est pas mal, cette mélodie. Peut-être qu'il faut que je la note, parce que quand elle va partir, peut-être que je vais oublier ou pas.
Alors, je vais vous demander, pour avoir justement la musicalité de votre livre, c'est de lire un petit extrait. Alors, il y a deux extraits que j'ai choisis, alors vous allez voir celui qui vous convient le mieux. Il y a celui-ci, ou alors, il y a celui-là. C'est à vous de voir, parce qu'après tout, c'est vous qui lisez. Celui-là ou l'autre. Et si vous avez un lunette, c'est le moment de les sortir.
Allez, je vais commencer avec les notes qui piquent, celui-là.
Okay. Ah, les notes qui piquent.
Ouais.
Alors, hop. Voilà.
Alors, dans les civilisations polythéistes, souvent, le dieu de la musique avait dans son ministère, en plus du divertissement, la charge d'harmoniser le monde. Orphée chez les Grecs et Osiris chez les Égyptiens étaient allés jusqu'en enfer parmi les morts pour en revenir plus éclairés et accomplir leur mission civilisatrice. Avec pour une arme, une lyre ou simplement leur voix, ils humanisaient, ils pacifiaient les monstres de l'instinct pour mieux apprivoiser les fauves de la passion. On dit qu'Orphée, en chantant, amollissait les pierres, charmait les bêtes féroces, faisait taire les oiseaux et les cascades, et qu'Osiris pacifia l'Égypte avec sa harpe en apportant la civilisation dans les coins les plus reculés. Tous deux donnaient à la nature la bénédiction surnaturelle de l'art. Grâce à l'harmonie, ils transformaient le chaos désordre en cosmos ordre.
Merci, André Manoukian.
C'était un plaisir.
Mais quelle belle lecture! Alors, ça nous transporte, on a envie d'en savoir un peu plus. Ce livre, vous l'avez fait pour une raison toute simple, parce que vous êtes amoureux de la musique, mais plus encore?
Je l'ai fait un petit peu pour commencer à noter toute l'expérience que j'avais acquise, et puis toutes les choses que j'avais découvertes lors de mes voyages musicaux. Et puis, tous les jours, quand je me lève, je vais au piano. Et je cherche. Donc, cette quête-là, qui était plus une quête intellectuelle, je parle de ramasser un petit peu tout ce savoir. Enfin, toutes ces. Il y a des choses. Ce livre, je l'ai écrit aussi pour deux raisons. C'est qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est qu'autrefois, tous les grands classiques étaient des improvisateurs. Et que tout d'un coup, accident industriel, à la fin du 19e siècle, on cesse d'apprendre l'improvisation aux musiciens. Mais c'est voulu, c'est pour dire, on s'en fout que vous vous exprimiez, maintenant vous êtes là pour jouer la musique du compositeur, c'est lui le chef. On prépare une société pyramidale qui va être terrible. C'est la société du XXe siècle, où toutes les tâches vont être complètement séparées les unes des autres, et soi-disant c'est plus efficace. Et moi j'avais envie de replacer cette musique classique que j'aime bien, que j'aime, mais pas plus que bien, bien sûr. Je l'avais envie de la replacer dans son contexte et de dire qu'en fait, Bach, Beethoven, Mozart, Haydn, qui vous voulez, étaient tous de furieux jazzman. Et que les mecs, non seulement ils se tapaient des gonzesses, ils se tapaient des chagrins d'amour, ça les inspirait, mais ils faisaient des battles entre eux. J'ai envie de redonner à la musique classique sa vie, alors qu'on l'a foutu dans le formol dès la fin du 19e siècle.
Le plus grand génie de tous les temps, pour vous, c'est qui ?
Jean Seb. Ouais, c'est Jean-Sébastien. C'est incroyable. Je pense que c'est presque la route des neurones quand vous écoutez une fugue de Bach. C'est à la fois très mathématique et en même temps très spirituel. C'est complet. J'aime bien le mot de Cioran qui dit « Dieu ne serait pas grand-chose sans Jean-Sébastien Bach ».
Et on termine sur cette jolie phrase. Merci André Manoukian pour ce livre, cher HarperCollins. Je rappelle le titre, « Sur les routes de la musique ». Et c'est fabuleux. Merci à vous.